Ouais, donc il n'y a pas vraiment de surprise en ce début d'année, puisque nous continuons sur le même rythme que l'an dernier, donc en essayant de mon côté en tout cas de me tenir un peu plus aux horaires. Thérèse. Donc là, enfin, c'est pas pour Thérèse qui disait ça, c'est pour moi. Donc normalement, voilà, 45 minutes de topo et 15 minutes de prière. D'initiation à prière silencieuse, légèrement guidée, et puis le dessert pris en commun, donc pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Je remercie d'ailleurs ceux qui apportent régulièrement voilà, des desserts et des boissons, et je rappelle que dans l'idéal, c'est à celui ou à celle qui apporte les desserts ou les boissons de les servir, parce que comme ça, moi je ne peux pas être partout. Donc je ne peux pas être en train de servir les desserts, prendre les gobelets, parler avec les différents protagonistes. Donc voilà, si vous pouvez, en apportant le dessert et les boissons, les servir en même temps, comme ça vous permet aussi de faire le tour et de discuter avec les uns et les autres, et de recevoir des compliments sur ces délicieuses histoires. Donc voilà, 45 minutes de topo, 15 minutes de prière et 2 heures de dessert. Au moins. Nous étions arrivés dans la semaine sainte, donc pour resituer, Jésus est entré à Jérusalem le jour des rameaux, une entrée qu'il vaut mieux qualifier de messianique que de triomphale, parce qu'elle est aussi une entrée pleine d'humilité. Et pendant la semaine sainte, pendant ce début de la semaine sainte, pendant ces trois premiers jours en tout cas, eh bien, nous avons assisté à un certain nombre de controverses, une ambiance d'hostilité, une ambiance propice à l'opposition entre Jésus et ses ennemis. Vous vous souvenez peut-être, ça a occupé les dernières écoles de prière de l'an passé, les scribes et les grands prêtres, puis les pharisiens, puis les hérodiens, puis les sadducéens, donc les différents groupes du peuple juif qui s'opposent au Christ, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, qui défilent pour essayer de tendre des pièges à Jésus. Et à chaque fois, le Christ eh bien, se tire du piège et, à plusieurs reprises, pose aussi des questions. Alors, on avait dit, il faut bien distinguer les questions des ennemis du Christ qui sont là pour le piéger et les questions de Jésus qui, elles, sont là plutôt pour éclairer, pour ouvrir le cœur, notamment ouvrir le cœur sur son identité divine. Donc le Christ, au contraire, essaye de, à travers différents indices, à travers différentes interrogations, de mettre ses opposants sur la piste de sa double nature, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc ça, c'était un petit peu le contexte général que nous avions vu l'an dernier. Alors, si je ne me trompe pas, nous en étions arrêtés à la question de Jésus, comment le fils de David... Comment le Messie est-il à la fois Seigneur de David et Fils de David ? Et donc c'était justement une de ces questions dont je vous parlais à l'instant, où le Christ n'essaye pas de piéger ses auditeurs en disant « voilà, moi je suis plus fort, je connais mieux l'Écriture sainte que vous », mais au contraire, pour leur faire comprendre, ben voilà, vous appelez le Messie Fils de David, mais le Messie, David lui-même, l'appelle son Seigneur. Donc comment est-ce possible ? Et la réponse, ben, c'est voilà, que Jésus, qui est le Messie, est à la fois fils de David en tant qu'il est homme, et seigneur de David en tant qu'il est Dieu. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous reprenons à cet endroit. Mais peut-être avez-vous des questions. Pas de questions. Alors, je n'ai plus de petits évangiles verts, mais j'en rachèterai quand j'irai à Flavigny, comme ça qu'on garde la même, le même support. Donc, nous sommes au chapitre 12, verset 37. La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Dans son enseignement, il disait, donc le Christ, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous pouvons déjà nous arrêter ici et relire en silence ce qui vient d'être lu à haute voix. Est-ce qu'il y a des choses dans ce passage qui éveillent en vous des questions, qui éveillent en vous des désirs d'explication que vous voudriez souligner? Qu'est-ce qui est reproché au scribe exactement? Dans ce passage. Parce que bon, souvent, on a dans notre esprit, on sait que le Christ reproche un certain nombre de choses aux scribes, aux pharisiens, mais plus précisément dans ce passage, il y a des choses qui sont pointées du doigt. Voilà, effectivement, clairement, l'idée de vanité, l'idée d'ostentation, l'idée de se montrer. Alors, ça permet de souligner que le Christ, évidemment, ne condamne pas la dimension extérieure de la foi. Il y a forcément une dimension extérieure à notre foi. Il y a évidemment la foi dans notre cœur, l'adhésion à Dieu, mais cette adhésion, elle se déploie dans une vie que nous menons, et nous la menons à l'extérieur. Et ce n'est pas ça que le Christ condamne. Le Christ est allé au temple, le Christ a demandé l'application des commandements, même dans les tenues, on voit que le Christ portait des franges à son manteau, puisqu'à un moment, il y a une malade qui touche ses franges pour être guérie. Donc, le Christ, il ne faut pas comprendre la critique de Jésus comme étant la seule chose bonne et la religion intérieure, celle qu'on a dans le cœur, tout le reste, tout ce qui est extérieur, le culte, la vie chrétienne, la morale, tout ça, ce serait forcément hypocrite. Non. Mais est-ce que le Christ qu'on a, effectivement, c'est l'accent trop fortement placé sur l'extérieur qui viendrait finalement prendre le pas sur l'intérieur. Le fait d'afficher de manière très ostentatoire sa foi, sa religion, et l'afficher à ce point que finalement l'intérieur est vide. Donc effectivement c'est une première chose, mais il y a aussi d'autres choses que le Christ pointe du doigt dans ce moment.
Dévorer bien des
meubles. Voilà, exactement. Donc, cette idée aussi que non seulement les scribes sont vaniteux, mais ils se servent de leur statut religieux pour manger, finalement, vivre, prospérer en vivant au crochet des fidèles. C'est-à-dire en étant, j'impressionne les fidèles par ma science religieuse et je leur demande en contrepartie de me nourrir, et même, je demande ça aux veuves, la veuve étant une figure de pauvreté, on va dire, dans la société israélite, dans la société de Jésus. Pourquoi? Parce que une femme, à l'époque du Christ, est forcément en lien avec un homme. Quand elle est jeune fille, elle est sous la dépendance de son père, et au jour de son mariage, ses parents la conduisent à la maison de son mari, et elle fasse, sous la dépendance économique et matérielle de son mari. Et donc, une femme, vraiment, vit, elle peut avoir des revenus par elle-même, comme la femme forte, dont on entend souvent la lecture à la messe, parce qu'elle tisse le lin, parce que, elle produit par un travail à l'intérieur de la maison. Un travail domestique, souvent un travail de couture, elle peut produire des choses, mais quand même le gros du revenu, celui qui assure la sécurité du foyer, de la famille, c'est l'homme. Et évidemment, la veuve, si elle n'a pas la chance d'avoir un fils, peut se retrouver vite démunie. Et donc là, ce que le Christ, effectivement, pointe du doigt, c'est que les scribes n'ont pas, alors qu'ils devraient être normalement des modèles de charité, puisqu'ils sont tout spécialement experts dans la loi de Dieu, et donc devraient avoir une sollicitude pour les veuves, et même peut-être les aider de leurs revenus, eh bien, au contraire, les scribes n'ont aucune retenue, et vont croquer le bien de ces dames qui ont déjà peu pour vivre, en profitant de leur statut religieux. Donc, évidemment, comme le dit Bossuet, à travers ce passage, il y a aussi un avertissement que le Christ lance aux maîtres et aux docteurs de l'Église qu'il va fonder. C'est-à-dire que c'est pas seulement une critique des scribes qui sont devant lui, mais c'est aussi un avertissement lancé aux prêtres et aux évêques qui suivront. Et c'est pourquoi on dit justement que Saint Paul, lorsqu'il arrive à Corinthe, eh bien, ne veut pas être à la charge de la communauté de Corinthe et se met à fabriquer des temples. Et plus tard, dans la lettre aux Corinthiens, il dira justement que, eh bien, il n'a été à la charge de personne, qu'il n'a justement profité aucunement de son statut d'apôtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner au culte, hein, parce que je suis en train de me fier la branche sur laquelle je suis assis, mais ça veut dire qu'évidemment, il y a un équilibre à avoir. À la fois, le Christ dit « l'ouvrier mérite son salaire », et quand il envoie ses apôtres et ses disciples en mission, il leur dit ben, « voilà, mangez ce qu'on vous sert », etc. Donc, le travail apostolique est un labeur, donc qui mérite salaire et qui n'est pas... Il est logique, il est naturel, il est légitime que devant ce labeur, il y ait une rétribution, mais voilà, la rétribution ne doit pas être excessive, et puis elle doit tenir compte des circonstances, et quand il s'agit notamment des veuves, eh bien, il vaut mieux s'abstenir de demander, puisque comme je vous le disais, elles ont un statut souvent délicat et indigent. Et bon, il en va de même pour les sièges d'honneur, les places d'honneur dans les dîners, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire on profite du statut religieux pour avoir un rayonnement humain, alors que le Christ a bien dit à ses apôtres, au contraire, que justement le premier d'entre vous sera votre serviteur, et que, au contraire, on doit plutôt choisir la dernière place.
Voilà, c'est ça.
Exactement, c'est cette idée que alors que le fait d'être prêtre, évêque ou apôtre ou disciple de Jésus devrait nous tourner vers Dieu et du coup nous faire regarder un peu de haut tous les honneurs humains en disant bah voilà, c'est pas l'essentiel, tout ça est secondaire. Là, ce que le Christ pointe, c'est cette dérive, cet esprit tordu des scribes qui, au contraire, alors qu'ils sont les plus savants dans la loi de Dieu, donc qui devraient être les plus tournés vers Dieu, bah, au contraire, détourne ce statut pour au contraire se retourner vers le monde et dire ben, on attend que dans le monde eh bien on ait les meilleures places. Alors qu'au contraire ces meilleures places dans le monde, dans les dîners, ils devraient s'en moquer puisqu'ils devraient comprendre que ben, leur honneur et leur gloire et leur joie c'est plutôt de se tourner vers Dieu.
Je pensais du fait par exemple que certains sénatiques acceptent des décorations.
Bah, ça dépend en vertu de quoi il a...
En général, on l'a fait de leur rôle en tant que tel, par exemple.
Moi, je dirais, tant qu'il ne la demande pas, et tant qu'elle est en lien avec un mérite spécial, je sais pas, par exemple, le fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil, ou parce que cette œuvre, elle a un rayonnement dans la cité, donc j'ai... Bon, après, il peut très bien la refuser, mais
un aumônier, par exemple, qui est sur le front, etc., qui peut avoir une décoration, une légion d'honneur, je peux comprendre, mais dans le cadre simplement d'une fonction ecclésiastique, j'ai du mal à comprendre.
Bah, si c'est une fonction ecclésiastique lambda, c'est-à-dire si c'est, je ne sais pas moi, dans un pays, tous les évêques de la capitale reçoivent automatiquement une décoration, ça n'a aucun sens. Mais je veux dire, un ecclésiastique qui a accompli une mission qui un retentissement dans la cité des pauvres, des enfants, des jeunes, que la cité en retour veuille le récompenser, du moment qu'il n'a pas fait cette œuvre pour cela, du moment qu'il n'a pas demandé la décoration, mais que quelqu'un d'autre la demande pour lui, moi ça ne choque pas qu'il la reçoive et qu'à travers cette réception, il puisse porter aussi peut-être une parole devant l'homme politique qui lui donne, auprès du journaliste qui l'interviewe, etc. C'est aussi une tribune pour proclamer l'évangile, d'une certaine manière. Après, que le même ecclésiastique refuse la décoration en disant bah non, j'ai pas fait ça pour ça, c'est très gentil de vouloir m'honorer, mais non merci, ça me paraît légitime aussi. Ouais, ouais. Alors, l'importance aussi de ces quelques petites phrases du Christ, c'est qu'en fait, dans Saint Marc, c'est la dernière fois que Jésus s'adresse aux Juifs dans un discours. En fait. C'est-à-dire que là, après, le Christ va se tourner vers ses disciples, va se tourner vers les apôtres, après on va rentrer dans la Passion et dans la Résurrection, mais ces quelques phrases de Jésus, cette invitation à la vigilance à l'égard des scribes, et qui vise, comme je le disais, les scribes du temps de Jésus, mais qu'en tant que prêtre, je pense qu'on peut aussi prendre pour nous. Cette phrase, c'est quelques phrases de Jésus, elles sont le dernier discours de Jésus adressé aux Juifs dans l'évangile de Saint-Marc. Et c'est d'ailleurs la première et la seule fois où Jésus parle à la foule des agissements des scribes. Les autres fois, il parlait directement aux scribes, en dénonçant ce qu'ils faisaient. Là, c'est la première fois qu'il parle à la foule des scribes en leur donnant donc cette consigne de vigilance et à travers cette consigne de vigilance aussi en rappelant aux hommes de Dieu qu'ils doivent vraiment être de Dieu. Donc c'est un message qui n'est pas anodin. Et puis on voit aussi que ce passage, il fait un peu la liaison avec ce qui précède et ce qui suit, puisqu'on parle des scribes et juste avant il y avait une controverse avec les scribes, mais on parle aussi des veuves. Et on va voir que juste après, il y a une veuve. Il y a aussi ce lien qui est fait. Alors passons justement à la veuve. Donc Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Même tout.
Sans doute qu'elle a entendu Jésus dire « À chaque jour suffit sa peine. »
Elle a
une sacrée confiance, c'est en cela qu'elle est spécialement. Elle a demandé
aux scribes.
Voilà. Tu auras entendu l'avertissement de Jésus. Moi, je pensais que vous alliez me demander ce que c'était que la salle du trésor, mais peut-être que tout le monde est au taquet sur. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on tape salle du trésor sur Internet, Fort Boyard sort plus vite que le temple de Jérusalem. De mon temps, il y avait Félindra, tête de tigre, je ne sais pas si encore ça. C'est Félindra, en expert du. Donc, la salle du trésor, donc c'était une salle entourée de colonnes qui se trouvait dans le parvis des femmes, donc juste avant le temple lui-même. Et dans cette salle, il y avait différentes urnes, différents troncs, qui étaient étroits en haut et larges en bas. Et donc, il y avait une forme de trompette. Et donc, on appelait ces troncs les trompettes. Et donc, il y avait 13 troncs. Et chaque tronc avait un peu sa destination. C'est-à-dire qu'on versait dans tel tronc les offrandes qui correspondaient au sacrifice des tourterelles, dans tel autre tronc les offrandes qui correspondaient au sacrifice d'expiation. Donc, c'est là qu'on mettait l'argent. Et puis ensuite, les sacrifices étaient offerts en lien avec ce qu'on avait donné. Et le 13e tronc, lui, était destiné aux offrandes volontaires qui ne correspondaient pas ensuite à l'achat d'un animal et un sacrifice. Donc, on peut penser voilà, que c'est dans ce 13e tronc que on déverse, les riches déversent de grosses sommes, puisque voilà, on montre vraiment qu'on est généreux, qu'on n'a pas versé de grosses sommes pour un sacrifice, mais voilà, purement gratuitement, on le verse dans le 13e tronc. Donc c'est dans, voilà, dans ce, sans doute dans ce tronc-là que tout se passe, et donc la petite veuve, effectivement, elle s'avance, et sans qu'on la voie, sans doute, parce que voilà, Jésus appelle ses disciples, mais sans doute que si les disciples n'avaient pas été appelés par Jésus, ben, ils n'auraient pas vu la veuve, et puis surtout il n'y a que Jésus qui, dans sa science divine, sait qu'elle donne tout ce qu'elle a. Parce que, évidemment, la veuve ne dit pas, regardez, c'est tout ce que j'ai, je le mets. Donc évidemment, il faut la science divine de Jésus pour savoir que cette veuve met tout ce qu'elle a. Alors ce qui est intéressant aussi à souligner, oui, il y a quelques instants, je vous disais que « Méfiez-vous des scribes », c'était la dernière parole de Jésus adressée à la foule. Et bien là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Jésus convoque ses disciples. Il appelle ses disciples pour leur parler de la veuve. Et ça faisait assez longtemps que les disciples avaient disparu de la carte. La dernière fois que les disciples étaient intervenus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec le figuier desséché. Donc c'était déjà il y a quelques jours, quand le Christ faisait avec ses disciples les allers-retours entre Béthanie et le temple, et qui était passé devant ses figuiers. Donc, vous vous souvenez, hein, Béthanie, c'est par là, où habitent Lazare, Marthe et Marie. Bethsagée, donc, est la maison des figues, donc, ce qui veut dire qu'il y a sans doute beaucoup de figuiers dans les environs. Et puis, donc, le Christ qui passe par le jardin des Oliviers pour aller au temple, et qui le soir revient pour dormir en sécurité chez Lazare, Marthe et Marie à Béthanie. Donc le Christ qui fait ses va-et-vient pendant les premiers jours de la Semaine Sainte, après son entrée le jour des rameaux, et puis donc il voit un figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits, et il le maudit, et puis le lendemain le figuier est desséché. Donc on avait dit que ce figuier représentait le culte du temple, qui est très fastueux, qui est très impressionnant, comme les feuilles, qui font beaucoup de masques, etc. Mais il n'y a pas de fruits, c'est-à-dire que le culte du temple, ben, il ne produit plus rien, puisqu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de duplicité, beaucoup de vanité, beaucoup de cupidité. Et donc, ben, ce figuier, c'était le culte du temple. Et donc, les disciples, ben, depuis lors, on les avait un peu perdus, puisque l'attention s'était concentrée sur les controverses entre Jésus et ses opposants. Et donc là, les controverses se terminent pour un temps, avant qu'on rentre dans la passion. Et donc Jésus appelle ses disciples, qui montrent quand même qu'il veut leur dire quelque chose en leur montrant cette veuve. Vous voyez, c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça, Jésus qui déclare, « Tiens, regardez la veuve. » Non, Jésus appela ses disciples et leur déclara, et il leur déclare avec une formule très solennel, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Évangile, mais qui ouvre toujours une parole importante de Jésus. « Amen, je vous le dis. » C'est pas juste cette pauvre veuve, c'est « Amen, je vous le dis. » Donc là, le fait de convoquer les disciples qui étaient en retrait depuis quelques chapitres, et « l'Amen, je vous le dis » montre une solennité particulière et l'importance que Jésus accorde à cette veuve et à l'exemple qu'elle donne. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme leçon, cette brave veuve ?
C'est comme le chef, quoi. Elle donne sans restriction.
Ah, il y a deux choses, évidemment. Il y a le don total. Voilà, le don total sans retour sur elle-même. Et il ne faut pas oublier que là, comme vous disiez, on est dans la Semaine Sainte. Donc évidemment, ce don total de la veuve, il est déjà, d'une certaine manière, une annonce du don total du Christ. Surtout que la traduction française atténue un petit peu. Parce qu'en fait, dans l'original, c'est « elle a mis tout ce qu'elle possédait, elle a mis toute sa vie ». Donc c'est pas seulement tout ce qu'elle a pour vivre, c'est plus encore. Et donc, voilà, forcément, il y a une annonce de Jésus qui donne sa vie. Et effectivement, il y a aussi une leçon d'humilité. Parce que elle n'est pas dans l'ostentation, elle ne se montre pas, elle ne s'affiche pas. Donc il y a cette leçon d'humilité que Jésus avait donnée aux disciples, justement, peu de temps avant. Puisque lorsqu'ils faisaient route vers Jérusalem, ils se disputaient quel sera le plus grand. Donc il y a ce rappel aussi, oui, Jésus convoque ses disciples pour leur montrer quelqu'un qui donne tout, lui qui va tout donner, pour montrer quelqu'un qui est humble sous le regard de Dieu, ça leur rappelle qu'ils doivent aussi rester humbles. Et puis la troisième leçon, c'est évidemment le contraste. Le contraste entre les riches qui s'affichent, et donc on en revient à ce qu'on disait à l'instant sur l'hypocrisie, le paraître des scribes qui, d'une certaine manière, rejaillit sur le paraître des riches. Après, c'est vrai que là je lisais des commentaires. Hein. Alors moi je m'étais toujours imaginé le Christ montrant cette veuve en exemple de manière assez joyeuse. En disant, ouais, en faisant la louange de cette veuve et en disant, regardez comme c'est beau d'une certaine manière. Et il y a un commentateur qui disait que on peut aussi imaginer que le Christ le dit avec le cœur déchiré. Parce que, alors c'est vrai que c'est magnifique, elle donne tout et il y a un acte de confiance qui réjouit le cœur du Christ, mais comme on le disait à l'instant, voilà, les veuves, c'était une classe sociale qu'il fallait spécialement aider. Et là, le Christ voit effectivement qu'elle n'a pas été aidée, puisqu'elle n'a plus que deux toutes petites pièces. Hein, dans un autre évangile, on donne l'équivalent, donc c'est vraiment trois fois rien. Et ce qui veut dire voilà, que Dieu va l'aider. Puisqu'elle donne tout, évidemment, on a foi que Dieu va la récompenser et l'aidera. Mais humainement, ces riches qui passent à côté et qui ont les poches pleines d'argent, qui vont déverser pour se montrer, n'ont même pas pensé à jeter un regard et à se dire que peut-être cette veuve méritait encore plus que la 13e trompette leur don. Donc, c'est vrai que voilà, on peut imaginer les choses des deux manières, et sans doute c'est complémentaire, à la fois cette joie du Christ devant cette confiance qui sera récompensée, et en même temps cette tristesse de Jésus de voir que ben voilà, se côtoient dans le même espace, et qui est un espace sacré, des riches et une très pauvre, et que ben, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication entre les deux. Vous avez des questions sur ces deux passages. Alors on avait dit que le passage précédent, les scribes, ça faisait joint parce que c'était un scribe comme avant et c'est une veuve comme après. Bah, là, c'est un petit peu la même chose puisque la veuve, bah, on en parlait avant et puis on est dans le temple et on va parler après du temple. Vous voyez, ça fait scribe, scribe. Veuve, veuve, temps, temps. Il y a des accroches, en fait, à chaque fois, ce qui aussi permet, dans une culture orale, parce que au début de l'Église, on n'a pas chacun son petit livre, ça permet aussi de garder le film, en fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est inventé, mais voilà, c'est écrit de manière à ce que on puisse aussi le mémoriser avec des accroches comme ça qui permettent de suivre. Donc on commence le chapitre 13 que nous ne terminerons pas aujourd'hui parce qu'il est très dense et assez riche aussi. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Mais Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer ?» Alors Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous soyez sur vos gardes, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, on vous frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas l'être, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui sera sur sa terrasse qu'ils n'en descendent pas et n'entrent pas pour emporter quelque chose de sa maison, celui qui sera dans son champ qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création quand Dieu créa le monde, jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'abrégeait pas le nombre des jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Alors, oui, alors ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'en fait, ces annonces sont des annonces très classiques. C'est-à-dire c'est vraiment le traditionnel langage prophétique et on retrouve pratiquement mot pour mot ces annonces dans les prophètes déjà de l'Ancien Testament. Et le Christ d'ailleurs ne donne pas de signes concrets au sens, bien sûr, bon, c'est très concret, des tremblements de terre et des famines, mais il ne dit pas quand il y aura un tremblement de terre à tel endroit, de telle manière, etc. C'est-à-dire que c'est le Christ dresse le tableau que l'on trouve dans les prophètes des derniers temps, qui seront des temps, effectivement, tout spécialement marqués par le trouble, on va dire. Mais il se garde bien de donner un signe très précis, très détaillé, puisque on le verra dans la fin du discours de Jésus. Au contraire, il dit bien, nul ne sait le jour que le Père. Donc, genre, souvent les sectes, genre les témoins de Jéhovah sonnent et ils vous disent le Christ a dit quand il y a des tremblements de terre, c'est la fin du monde. Bah, il y a eu des tremblements de terre au Japon, donc c'est la fin du monde. Oui, enfin des tremblements de terre, il y en a depuis toujours. Des guerres nation contre royaume, il y en a depuis toujours. Des famines, malheureusement, il y en a depuis toujours. Donc le Christ donne un signe sans donner de signe, en fait, puisqu'il donne des signes extrêmement généraux. Donc c'est ce qu'il faut répondre au témoin de Jéhovah.
Pour leur dire qu'ils sont les faux prophètes.
Et si vous êtes taquin, vous pouvez aussi leur citer le passage de Saint-Luc qui dit « Vous ne passerez pas de maison en maison ». Je crois que c'est Saint-Luc 10, 18 ou quelque chose comme ça. Donc comme ça, vous prenez la Bible et vous dites « Ah, mais regardez, il y a marqué « Vous ne passerez pas de maison en maison ». vous ne respectez pas les questions simples, finalement. Donc, non, puis surtout sur cette question, ce qu'il faut toujours dire, c'est peu m'importe que la fin du monde soit je sais pas, le 19 décembre 2019, parce que moi je peux mourir aujourd'hui. Donc les gens qui vous disent la fin du monde c'est imminent, c'est en 3 mois, dans 6 mois, il faut se préparer et tout. Ben non, la fin de mon monde, la fin de ma vie, ça peut très bien être aujourd'hui. Donc 3 mois, 6 mois, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est être prêt chaque jour. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le Christ terminera son discours sur la ruine de Jérusalem et les derniers temps par un appel à la vigilance. Enfin, je n'ai pas lu, mais bon. C'est comme un homme qui part en voyage, qui quitte sa maison, qui laisse ses serviteurs. Les serviteurs doivent veiller. Le Christ terminera justement par cet appel à la vigilance. Il faut toujours veiller, parce que justement, c'est chaque jour, c'est à chaque moment qu'il faut être prêt, et pas pour une fin du monde qu'on aurait déterminée de façon un peu arbitraire. Qu'est-ce qui a pu vous interpeller aussi, vous marquer dans cette tout ce passage que j'ai lu aussi, il y a quelque chose comme
l'avant de la résurrection. C'est pas la reconstruction du temps, en fait, le temps c'est.
Voilà, effectivement, il y a ces deux dimensions qui sont complètement liées, et j'ai voulu en lire une bonne partie du passage pour montrer que, en fait, dans le discours du Christ, s'entremêlent plusieurs événements. En fait, il y a sa passion et le voile du temple qui va s'ouvrir, qui est déjà la fin d'un monde, c'est déjà la fin de l'ancienne alliance. Il y a la ruine de Jérusalem et la ruine du temple qui vont sceller la fin de l'ancienne alliance et qui sont quand même un événement extrêmement important dans toute l'histoire du salut, parce que Jérusalem c'était la ville sainte, le temple c'était le lieu de la présence de Dieu, enfin voilà, toute l'histoire du salut s'enracinait dans ces lieux, donc la ruine de Jérusalem et du temple c'est un événement, comme le dit le Christ, il n'y en aura pas de plus important dans l'histoire du monde. Alors, on peut dire, mais si, vu le nombre de morts, etc., mais c'est pas quantifié en nombre de morts ou en grandeur de catastrophe. C'est au regard de l'histoire du salut et de ce qu'était le temple, il n'y a pas plus. Il n'y a pas événement finalement plus retentissant. Et puis il y a les derniers temps, le jour du jugement, le dernier jour. Et donc, dans ce discours du Christ, tout est lié, tout est imbriqué, il y a un va-et-vient entre ces différents événements. Alors, d'une part, parce que les évangélistes, sans doute, écrivent avant la chute de Jérusalem, et donc pour eux, c'est difficile de savoir si la fin du monde va être très proche de la chute de Jérusalem. Quand on est juif, on peut penser que une fois que Jérusalem va tomber, que le temple va s'écrouler, bah, que la fin du monde va arriver. Donc déjà, voilà, quand on écrit avant les événements, bah, c'est difficile de savoir exactement le laps de temps qui va se dérouler. Nous savons, nous vivons 2000 ans après, qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre la chute de Jérusalem et la fin du monde, mais il n'empêche qu'il y a un lien qui unit ces différents événements. Donc, la mort du Christ, effectivement, qui est le véritable temple, dont le corps est assailli par la mort et qui est relevé dans sa résurrection. La chute de Jérusalem et la fin du temple de Pierre, et au contraire, l'entrée dans l'âge de l'Église, qui est le nouveau temple, l'Église catholique, qui est en quelque sorte le temple immatériel, mais qui est le corps du Christ et qui est, voilà, le lieu du culte. Et puis, la fin des temps, le jour du jugement, l'entrée dans la gloire, qui sera justement l'avènement de l'Église, l'avènement du Christ. Donc il y a quand même un lien qui unit tous ces événements. À tel point d'ailleurs que saint Paul dit que nous sommes entrés dans les derniers temps. La mort et la résurrection du Christ nous font entrer dans le dernier âge du monde. Il n'y aura pas d'autre âge après. Le Christ reviendra dans sa gloire et il emmènera ses élus avec lui dans le paradis. Le monde, l'histoire du monde, n'aura pas une nouvelle étape. nous sommes avec la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, entrés dans les derniers temps. Alors ces derniers temps, ça peut durer 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous sommes dans les derniers temps. Pourquoi Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait appelé la société qu'il a fondée au départ les apôtres des derniers temps? Et je vous dis, Saint Paul dit, en ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son fils. C'est les titres que nous entendons à la messe du jour de Noël. Nous sommes dans les derniers temps. Ça ne veut pas forcément dire que Saint Paul pensait que la fin du monde était imminente, puisqu'il y a des passages, notamment aux Thessaloniciens, qui montrent le contraire, mais il avait très clairement conscience que l'arrivée du Christ nous fait entrer dans le dernier temps. Puisqu'il y a le temps d'Adam et Ève, le temps de l'alliance avec Noé, le temps de l'alliance avec Abraham, c'est-à-dire de cette manière le renouvellement avec Moïse, et puis il y a le Messie attendu, prophétisé, qui arrive et qui fait entrer le monde dans l'état ultime. Après l'arrivée du Messie qui avait été annoncé, prophétisé, attendu, il ne peut pas y avoir d'autres états. Donc nous sommes dans les derniers temps. Donc c'est pour ça que on peut être, nous, a posteriori, on peut être étonné qu'il y ait comme ça entremêlé des passages sur le jugement dernier, des passages sur la ruine de Jérusalem. Mais en fait, voilà, ce sont, on va dire, des développements, mais d'une seule et même étape, qui est l'entrée dans les derniers temps. Est-ce que vous avez des questions? C'est dommage qu'il n'y a plus le temps. Ben, je pense qu'on peut le comprendre à plusieurs niveaux, on peut le comprendre de plusieurs manières, mais sachant que chacune de ces manières est en correspondance avec les autres.
Ou alors la manière triste, c'est-à-dire que ça va être une passion tellement forte, en fait, enfin, des douleurs tellement violentes, comme les douleurs de l'enfantement, en fait, juste une comparaison.
Ben, disons, je pense qu'on peut l'appliquer au Christ. Non, mais aujourd'hui, il y a plein de choses. On peut le comprendre du Christ. Le Christ qui souffre dans sa passion pour renaître à la vie glorieuse. On peut le comprendre de l'Église et de la Nouvelle Alliance. Les persécutions, mais dans les persécutions des premiers siècles et dans toute persécution, la Nouvelle Alliance dans l'Église grandit. C'est la phrase de Tertullien, je crois, le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est aussi dans le témoignage des martyrs, dans leur vie donnée, dans leur mérite, et puis dans leur amour de Jésus jusqu'au bout, dans leur refus de la violence, dans leur désir de rester fidèle à l'Évangile, et bien que l'Église, finalement, trouve sa sève, en quelque sorte, trouve sa vitalité. Donc, les douleurs de l'enfantement, ça peut être les douleurs du Christ qui renaît à la vie glorieuse, ça peut être les douleurs de l'Église, mais qui accouche d'un monde nouveau, que c'est la nouvelle alliance, la nouvelle loi de l'Évangile, le nouveau commandement de l'amour fraternel, hein, c'est toute cette nouveauté de Jésus, le fait qu'il est devenu enfant de Dieu, toute la nouveauté que Jésus apporte. Et puis, ça peut être aussi les douleurs des derniers temps, qui seront particulièrement troublées, comme on disait, le Christ qui, dans un autre évangile, dit « Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Donc, ce combat de la foi, l'antéchrist qui se déchaînera, et donc les douleurs des derniers temps, donc ces grands moments de trouble, mais qui déboucheront, pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, comme Jésus dit, sur la vie au paradis, donc cette vie nouvelle, le paradis étant finalement un peu pour nous comme la vie à la lumière pour le bébé in utero. C'est-à-dire une vie qu'on a du mal à s'imaginer, une vie qui est à la fois totalement différente de la vie que nous vivons actuellement, et en même temps une vie qui est en continuité et qui est l'aboutissement de la vie que nous menons. Puisque ce sera une vie où le corps ne sera plus, n'aura plus la pesanteur qu'il a actuellement, où il n'y aura plus évidemment de souffrance, où on ne sera plus tenu par l'espace et le temps. Donc c'est quand même une vie qu'on a beaucoup de mal à s'imaginer, et en même temps c'est une vie qui est en continuité et en accomplissement avec la vie que nous menons actuellement, parce que c'est la vie pour laquelle nous sommes faits. Bon, c'est la phrase très célèbre de saint Augustin, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Donc cette idée que on est fait pour cette vie, et en même temps cette vie, on a beaucoup de mal à s'imaginer. Un peu comme un bébé in utero, s'il avait la capacité de s'imaginer les choses, aurait le plus grand mal à s'imaginer. Si on peut communiquer avec lui et puis lui décrire ce que nous vivons, c'est sûr que lui, in utero, il n'aurait sans doute pas beaucoup de référentiel pour comprendre ce dont on lui parle. Bah, la vie dans le ciel, c'est un peu la même chose. Voilà. Je vous ai d'autres questions.
Salut.
Oui, il en parle quand même. Ouais. Après, l'esprit de Dieu, ou l'esprit tout court, c'est quand même une notion qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, mais qui est que les juifs ne situent pas forcément exactement par rapport à Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu, parfois, c'est mis pour Dieu lui-même, parfois comme une activité de Dieu, comme un don de Dieu. Donc il y avait un peu cette incertitude, il y a plusieurs notions comme ça, comme la sagesse de Dieu, comme la puissance de Dieu, où parfois on avait l'impression que c'était identique à Dieu, et parfois que c'était différent de Dieu. Et donc c'est aussi une manière pour le Seigneur d'annoncer discrètement dans l'Ancien Testament la Trinité, pour dire effectivement en Dieu il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement un don de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Il y a des mises en garde aussi contre les faux prophètes.
Voilà, alors ça c'est un peu la double tonalité de ce discours de Jésus, confiance et vigilance. Enfin, vigilance, voilà, ouvrez l'œil, méfiez-vous, et en même temps confiance, n'ayez pas peur, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, l'Esprit Saint sera là, donc voilà, c'est toujours ce double registre qu'on va retrouver jusqu'au bout, confiance et vigilance. Et c'est vrai que, je termine là-dessus, sinon je ne vais pas respecter mon engagement, mais on peut voir par exemple dans Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte Bernadette, de beaux exemples de l'Esprit Saint parlant à travers ses saints. C'est-à-dire que voilà, des jeunes filles qui n'ont pas forcément une éducation, une culture religieuse, voilà, une sagesse humaine forcément aguerrie par des temps passés à l'étude, à l'école, etc. Mais qui, dans leur procès, ou je pense à Saint-Denis, dans ses confrontations, ont des paroles lumineuses qui touchent vraiment en plein dans le mille. Et ça, on peut y voir justement une application de cette promesse du Christ, ne vous souciez pas de ce que vous direz, c'est l'Esprit Saint qui parlera à travers vous. Il y en a beaucoup, mais Sainte Jeanne d'Arc, on lui demande, es-tu en état de grâce, si je n'y suis, Dieu m'y met, si j'y suis, Dieu m'y garde, c'est extrêmement bien vu, et ça part en même temps. Et puis, je ne sais plus, à un moment, si on lui demande, est-ce que Saint-Michel était tout nu, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop exactement, mais elle a une très très belle réponse, où on a dit, mais parce que vous pensez qu'il faut qu'un ange soit habillé pour qu'il vienne parler au nom de Dieu, enfin, je ne sais plus exactement ça, c'est encore bien mieux tourné que ça, mais voilà, ça, on essaie clairement de la coincer, et ça, elle répond du tac au tac, et vraiment une réponse délicieuse, que je retrouverai pour la prochaine fois. Et donc Sainte Bernadette, ouais, c'est un peu lié, quand on lui dit, tu me demandes de croire que la Sainte Vierge t'est apparue, ouais, je ne vous demande pas. Je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis juste là pour vous le dire. C'est extrêmement juste aussi comme équilibre et une belle manière justement de répondre à ces persécuteurs. En fait. Nous allons monter à la châtaigne et donc nous nous retrouvons dans 15 jours, le jeudi, je ne sais plus combien, 3 octobre, je crois. Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus. Et donc nous relirons tout le chapitre 13, donc nous consacrerons le 3 octobre au chapitre 13, donc la partie que nous avons lue et surtout la partie que nous n'avons pas lue. Donc nous pouvons monter, faire un petit une prière et je vous encourage à prendre pour certains votre chaise.